Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, le 14e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Une mobilisation marquée à Paris par l'agression verbale raciste et antisioniste visant le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Des Gilets jaunes qui se posent des questions sur l'avenir de leur mobilisation alors que selon un sondage, 52% des Français souhaiteraient l'arrêt du mouvement. Une bombe paralyse actuellement tout le nord de Paris, une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale que des démineurs vont faire exploser ce matin. Tout le quartier de la Porte de la Chapelle a dû être évacué, le trafic est arrêté. Le contournement routier d'une commune classée parmi les plus beaux villages de France pose problème. Cela se passe à Bénac, en Dordogne, où près de 3000 personnes ont manifesté hier demandant la reprise du chantier. Et puis à 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Et à 8h20, votre invité Éric Delvaux, en l'occurrence Pascal Brice.
Oui, il vient de quitter la direction de l'OFPRA, 6 années à la tête de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Question donc ce matin sur le droit d'asile en France. Rendez-vous à partir de 8h20.
France Inter. Alors que selon un sondage IFOP pour le JDD publié ce matin, il ne serait plus que 50% à soutenir ou à déclarer avoir de la sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, il serait en revanche 52% des Français estimés que ce mouvement doit cesser. Ils étaient seulement 37% à penser la même chose il y a très exactement un mois de cela. Des estimations à mettre en corrélation avec la participation d'hier, 41 500 manifestants à travers toute la France, dont 5 000 à Paris. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 10 000 de plus le week-end dernier selon la même source, des Gilets jaunes qui eux aussi se posent bien des questions sur la poursuite de leur mouvement, comme hier à Bordeaux. Bordeaux qui a pourtant connu la même mobilisation que samedi dernier. Pierre-Marie Gros.
Oui, en témoignent ces discussions avant le départ du cortège. Faut-il ou non continuer à manifester en centre-ville, même si elle est venue spécialement pour cela de Corrèze? Fanny pense qu'il faut changer de stratégie.
Ça sert plus à rien, ils nous attendent tous les week-ends de toute façon. Donc à quoi ça sert? Il faudrait mieux être en dehors des villes, bloquer l'économie. Et ça, j'espère que ça se fera très rapidement. Et il suffit qu'on s'organise tous ensemble et tous ensemble on vaincra.
Pas d'accord, Pierre Delongon.
Soit il faut faire le nombre, ou soit il faut faire la violence. Personnellement, je suis pour le nombre, pour être entendu. Plus on sera nombreux, et c'est dans les villes qu'il y a le monde. Maintenant, c'est vrai que je regrette beaucoup pour les commerçants. Alors je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas faire ça tous les dimanches? On ne gênerait personne.
Pierre qui, au passage, pense qu'on laisse exprès opérer les casseurs en toute impunité.
Non, qu'à les arrêter, tout simplement, plutôt que de les laisser faire. C'est très facile de laisser casser, puis après envoyer les camarades de télévision, dire il y a les gilets jaunes, c'est les casseurs. On nous parle de fichiers S, pourquoi pas faire les fichiers des casseurs?
Puis il y a ceux qui tiennent au désormais traditionnel rendez-vous de fin de manif devant l'hôtel de ville, avec ou sans Alain Juppé, à qui Sarah souhaite...
Bonnes vacances, oui.
Sarah, venue de Dax, pour qui la place Péberlan est un passage obligé.
On ne peut pas accéder à l'Elysée, donc c'est des lieux emblématiques. Puis c'est là où ils nous attendent, hein, donc c'est là où on doit aller.
Même si les abords de la mairie sont à chaque fois, comme hier, évacués à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau.
Pierre-Marie Gros à Bordeaux. Comme samedi dernier, des rassemblements ont donc eu lieu un peu partout en France. Rassemblements qui ont parfois dégénéré, une fois encore, lors de leur dispersion. Ce fut le cas notamment à Bordeaux, justement, mais aussi à Toulouse ou bien encore au Mans, où la permanence du député La République En Marche, Damien Pichereau, a été entièrement saccagée, ainsi que le commissariat qui a lui été attaqué. À Paris, c'est le philosophe et académicien Alain Finkielkraut qui a été pris à partie à la sortie de son domicile dans le 14e arrondissement par des manifestants en marge d'un défilé des Gilets jaunes. Alain Finkielkraut qui a fait l'objet d'injures et de propos antisémites, propos qui ont déclenché une vague d'indignation au sein de la classe politique, toutes tendances confondues. Mais pour le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, joint au téléphone par Farida Noir, il faut aller beaucoup plus loin. Je vous propose de l'écouter.
Les tweets d'indignation et de compassion ne suffisent pas. Le président de la République...
Les tweets de qui? Du gouvernement?
Oui, bien sûr. Le président de la République et le gouvernement ne doivent pas se contenter de commenter. Ils sont censés exercer le pouvoir de l'État. Ils ont la responsabilité d'agir. Et moi, comme secrétaire général délégué des Républicains, ce que j'attends du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il fasse procéder sans délai, dans les heures qui viennent, à l'identification et à l'interpellation de ces barbares antisémites pour les livrer à la justice.
Et pour en revenir à la mobilisation des Gilets jaunes, ils se sont donnés rendez-vous aujourd'hui à Paris dès 11h ce matin pour commémorer les 3 mois de leur mouvement. Une manifestation déclarée en préfecture qui se déroulera essentiellement rive gauche pour se terminer devant l'Assemblée nationale.
Et Paris qui va connaître dès ce matin d'autres perturbations, des perturbations liées cette fois-ci à une vaste opération de déminage.
1800 personnes personnes évacuées, des transports fortement perturbés avec notamment l'interruption du trafic de 9h à 15h sur les lignes des RER B et D, sans oublier l'arrêt des TER Hauts-de-France desservant la capitale et puis bien sûr l'autoroute A1 également bloquée. Tout cela pour la découverte d'un obus datant de la Deuxième Guerre mondiale sur un chantier proche du périphérique Porte de la Chapelle. Un engin explosif découvert le 3 février dernier que les démineurs vont déplacer 200 mètres plus loin afin de le faire exploser au fond d'un caisson prévu à cet effet. L'évacuation des riverains a donc commencé dès 6h ce matin. Elle devrait se terminer d'ici une demi-heure. Avant que les démineurs n'entrent en action, nous vous tiendrons bien entendu informés dans nos prochaines éditions. Mais n'oubliez pas de vous rendre sur les sites internet de la RATP et de la SNCF si vous devez vous déplacer ce matin dans le nord de la capitale.
Autre manifestation, autre lieu et autre motivation, ça se passe cette fois à Barcelone.
Oui, Barcelone qui a vu défiler hier 200 000 personnes contre le procès de 12 dirigeants indépendantistes favorables à une sécession de la Catalogne. Barcelone qui va connaître une nouvelle manifestation aujourd'hui, celle des pro-unionistes cette fois-ci, bien décidés dès midi à dire non à l'indépendance de la Catalogne. Barcelone, Mélanie Nunes.
Ils se mobiliseront derrière un seul mot d'ordre. La Catalogne doit rester en Espagne. Des unionistes qui veulent faire barrage à la tentation indépendantiste de milliers de Catalans. Carlos fera le trajet en bus tout à l'heure. À 32 ans, il vit dans un petit village d'à peine 300 habitants au nord de Barcelone. Il faut, dit-il, ramener le calme en Catalogne. Pour lui, la situation est catastrophique.
Le conflit est surtout entre nous, les Catalans. Il y a une fracture totale. Les liens d'amitié ont été rompus dans la capitale catalane. Des familles ont été divisées. Les Catalans indépendantistes, ils considèrent que pour obtenir leur projet politique, il faut qu'ils obligent tous les Catalans à abandonner leurs droits. Ils veulent tout avoir et ne rien laisser aux autres. C'est impossible en démocratie. Déjà qu'on se sent presque étranger dans notre propre pays.
En tête de cortège tout à l'heure des partis de centre et de droite, celui de Ciudadanos, dont la tête de liste n'est autre que Manuel Valls. L'ancien Premier ministre français souhaite rester discret et sera absent finalement aujourd'hui, fait savoir son entourage. Lui qui a pourtant construit son discours de campagne pour les municipales en opposition à l'indépendance. Barcelone, Mélanie Nunes, France Inter.
À l'étranger encore, en bref, plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire en provenance des États-Unis destinées au Venezuela sont arrivées du côté colombien de la frontière. L'opposant de Maduro, Juan Guaido, a d'ores et déjà recruté quelques 6000 volontaires en vue justement de pouvoir acheminer cette aide dans son pays.
Retour en France, Serge, où le contournement routier d'une commune et de son château classé monument historique fait décidément beaucoup de bruit. Ça se passe précisément à Bénac, en Dordogne.
Cette commune de 550 habitants située sur les bords de la Dordogne, entre Sarlat et Bergerac, classé parmi les plus beaux villages de France, haut lieu touristique du Périgord, devrait en effet bénéficier d'un contournement routier souhaité par les élus locaux. Mais voilà que les défenseurs de l'environnement et du patrimoine ont obtenu du Conseil d'État qu'ils suspendent l'arrêt préfectoral autorisant les travaux, en raison ceci de répercussions possibles sur la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et faute d'intérêt majeur. Le chantier commencé est donc arrêté, pas de tronçon et donc pas de déviation dans les médias. Pour la plus grande colère de certains habitants et d'élus du département. Ils ont été plusieurs milliers entre 2300 et 3000, selon les sources, à venir faire part de leur dépit hier. Parmi eux, Josette, venue de Vitrac, une commune toute proche.
Oui, en colère. Quand on voit ce massacre, arrêter un chantier d'une valeur comme ça, parce que c'est indispensable, il y avoir une belle route, une piste cyclable, on ne peut plus rouler en vélo nulle part l'été. Je trouve que c'est une honte, avec des travaux engagés comme ça, signés par l'État. Impressionnant, on ne comprend pas là. Vraiment, on ne comprend pas. C'est quand on travaille dans le tourisme, moi ça a été mon cas toute ma vie, j'en suis enragée de voir ça, enragée. Et je suis contente parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de monde et que les gens sont exactement de la même façon. Ils pensent que c'est vraiment gaspiller de l'argent comme ça, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça si ça ne marche pas? On va le laisser? Non mais... Remettre 15 millions d'euros pour démolir, et quoi plus aussi, c'est invraisemblable.
Des propos recueillis par Antoine Ballandra de France Bleu Périgord. De son côté, le collectif Sauvons la Vallée de la Dordogne dénonce la pression exercée par les élus, et tout particulièrement par le président du conseil départemental Germinal Perrault. Du cinéma pour refermer ce journal avec le festival du film de Berlin, Berlinale, qui était l'occasion de rendre hommage à Bruno Gans, l'acteur suisse décédé hier d'un cancer à l'âge de 77 ans. Bruno Gans, qui s'était révélé au grand public en jouant le rôle d'Hitler dans le film La Chute. À noter également que François Ozon a été récompensé par le Grand Prix du jury pour son film Grâce à Dieu, film évoquant donc les affaires de pédophilie au sein du diocèse de Lyon et dont la sortie en salle prévue cette semaine va être tranchée demain par le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé. Enfin, parmi les décès du monde du théâtre, rappelons la disparition hier également de Serge Merlin qui s'était aussi illustré dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.